comme tout le monde, j'avais des idées fausses sur le pèlerinage de Compostelle. Et moi, je voulais faire le chemin. Je pensais que c'était un lieu où on se retrouvait dans la solitude et les grands espaces pour de longues méditations solitaires. Et un peu comme un monastère, voyez. Et j'ai découvert tout de suite que c'est un lieu où il y a énormément de monde, où on est toujours en train de parler, et où, voilà, il n'y a pas que des paysages sublimes. Et en fait, de retrouver son âme, on trouve d'abord qu'on a un corps, et un corps qui vous fait mal, et des pieds notamment. Si vous voulez, c'est très différent de ce qu'on imagine. Voilà, moi j'étais partie pour des raisons qui sont avérées fausses, enfin, vous voyez. Parce que souvent, on a des visions de Compostelle, souvent grâce aux livres d'ailleurs, avec des images de paysages sublimes, et des méditations très élevées des pèlerins, voilà. Mais la réalité de la vie du pèlerin est légèrement différente et elle est très intéressante aussi, justement. Là, c'est très intéressant, mais ça ne ressemble pas à ce qu'on imagine. Ça ressemble à un univers d'amitié, de gens qui ne sont pas du tout, d'ailleurs pour les trois quarts, même pas croyants ou pas catholiques, et qui marchent tous vers Compostelle et qui, en chemin, vont se connaître, s'aimer, s'entraider, quelquefois s'agacer, s'énerver. Enfin voilà, c'est toute une communauté en fait en marche, Compostelle.
Comment vous êtes-vous mis en route ?
Ben écoutez, je me suis retrouvée la première fois le 14 juillet 2003 en bas des Pyrénées, à la première étape du chemin espagnol, enfin qu'on appelle le Camino Francés, le chemin français, à Saint-Jean-Pied-de-Port. J'étais spécialement pas entraînée parce que je fumais beaucoup, je buvais pas mal, j'étais pas du tout sportive et j'avais un sac à dos et des chaussures et voilà, je me suis dit ça va être facile, t'as qu'à suivre les flèches, ça peut être dur mais ça sera pas difficile. Et voilà, je me suis retrouvée un peu comme Bécassine chez les pèlerins avec des tas d'idées un peu préconçues qui se sont envolées au fil du chemin.
Que vit-on sur la route de Saint-Jacques ? Qu'est-ce qu'on abandonne ? Qu'est-ce qu'on crée ?
Un pèlerin doit être léger. Une des premières choses qu'on abandonne, c'est des poids supplémentaires qui sont... Mais c'est très concret, si vous voulez. C'est très matériel et c'est le poids supplémentaire qu'on a dans son sac à dos. Parce que si vous avez un sac à dos qui fait plus de 10% de votre poids, ce qui est en général le cas, eh ben vous pouvez simplement plus avancer. À moins d'être un grand randonneur très doué, ce que je n'étais pas. Donc je me souviens qu'à Logroño, une des premières étapes où il y a des postes, tout le monde renvoie le poids supplémentaire qu'on accumule dans les sacs et qui sont souvent des livres, des appareils photo, des choses comme ça, dont on n'a absolument pas besoin en fait. La première chose qu'on apprend, c'est à s'alléger, mais au sens littéral.
On dit que faire la route de Compostelle change une vie. Est-ce que ça a été le cas pour vous ?
Ça dépend. Il y a des gens dont ça peut changer la vie dans toutes sortes de sens. Moi, d'abord, je l'ai fait 3 fois, même 4. En tout cas, c'est un moment de vérité qui n'est pas forcément facile à vivre et qui peut entraîner toutes sortes de conséquences. Il y a des gens chez qui ça peut être pas du tout réussi parce qu'on a une image un petit peu fausse quelquefois. Il y a des gens aussi qui craquent, il y a des gens qui tombent malades, il y a des gens qui n'arrivent pas, il y a des gens voilà, qui ont des difficultés. Et puis, c'est, en tout cas, pendant le temps que vous le faites, c'est une autre façon de vivre. Hein. C'est plutôt ça, vous vivez différemment pendant tout le temps de ce chemin. On apprend des choses comme ça.
Vous employez une expression assez sympathique sur les pèlerins. Selon vous, ce sont de grands enfants. Pourquoi ?
D'abord, ça ressemble un peu à des vacances quand on est petit, c'est-à-dire qu'on dort dans des dortoirs, on est nombreux, on chahute, tous les soirs c'est un nouvel endroit, et on vit des journées qui sont à la fois très longues et très courtes, comme les vacances des enfants, parce que vous marchez pendant 6 heures, et c'est assez long, et puis hop, après vous prenez votre douche, et il y a une autre journée qui commence à être 2 journées en une, et le temps est à la fois très lent et très rapide, et on arrive presque à vivre au présent, ce qui je pense c'est un peu l'idéal de tout le monde, à arriver vraiment à vivre au présent en marchant à 4 km à l'heure, forcément, ça amène toute une façon de vivre différente.
Comment se passent les relations entre les pèlerins et également quelle est la relation des pèlerins avec le reste du monde ?
Les relations entre les pèlerins, c'est comme un peu toutes les relations humaines, mais ce qui est intéressant, c'est comme on fait tous à peu près les mêmes étapes, de à peu près 20-25 km par jour. Vous allez en rencontrer les gens et vous les retrouvez le soir, parce que tout le monde ne marche évidemment pas au même rythme. Et beaucoup, on se croise, on se double, mais on se retrouve très souvent le soir. Donc, il y a des relations qui vont en s'approfondissant. Ils sont comme dans la vie, mais ils sont plus étonnants dans la mesure où vous avez vraiment des gens qui viennent de partout et qui font toutes sortes de métiers et qui ont toutes sortes de convictions et que vous rencontreriez pas si vous partiez pas de chez vous. Les rapports avec le reste du monde, ça dépend parce que on est dans un univers parallèle, mais en même temps, tout le monde a des téléphones portables Et en général, on les met pas toute la journée, mais on les branche en tout cas le soir. Donc on a des nouvelles du monde extérieur. Et en plus, on traverse des grandes villes. Il y a des moments où on est dans des petits villages et puis hop, on traverse par exemple Burgos. Enfin, ce sont des grandes villes. Donc les informations et tout ça, elles nous parviennent quand même. Et même quelquefois de façon brutale. Et je crois que c'est important. C'est pas justement un monastère. C'est important de pas être coupé du monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand vous marchez, qui comptent sur vous pour marcher. C'est-à-dire que c'est curieux, ils vous téléphonent en vous disant « Est-ce que tu pourrais pas marcher pour un tel qui est malade ?» Ça fonctionne un peu comme ça, et c'est pas du tout les gens qu'on aurait imaginé au départ qui vous demandent ce genre de choses. Donc je crois que c'est très important de pas être coupé du monde. D'ailleurs, on est dans le monde, mais dans un univers parallèle.
Alors, le pèlerinage de Compostelle attire des foules de chrétiens fidèles à cette tradition qui remonte au Moyen-Âge, et depuis quelques années, vous l'avez évoqué, une majorité de non-croyants. Alors, comment peut-on expliquer cela, et vous-même, spirituellement parlant, qu'est-ce que vous avez vécu pendant ce pèlerinage ?
Les Français, très souvent, ils y vont en groupe, ils y vont ou en famille, ou avec des groupes d'amis qui partagent pour des raisons culturelles ou religieuses. Très souvent, c'est comme ça. Mais les gens qui viennent du monde entier, c'est pour des tas d'autres raisons. Et les gens qui vont seuls comme moi, mais il y en a plein, à mon avis, les trois quarts, et les Espagnols notamment, parce que ça leur arrive même quelquefois, sont même anticléricaux, quelquefois, et violemment. Et ça, c'est assez curieux, et je pense que chacun a ses motivations. C'est beaucoup un chemin où les gens vont quand ils se posent des questions. C'est une façon de vivre en dehors de sa famille aussi pendant un certain temps. Et quand, par exemple, ils ont aussi accompli des vœux en Espagne, par exemple, ils disent « Si ma grand-mère guérit, eh ben, je ferai le chemin de Compostelle. » Des gens comme ça, où il y a toujours un... Alors, il y a un vœu officiel et un vœu secret. Très souvent, comme ça, il y a des gens qui ont fait des vœux, des gens qui cherchent quelque chose, des gens qui sont à un tournant de leur vie ou de leur couple et qui se demandent, qui ont besoin de temps pour réfléchir, de temps pour être... à eux, quoi. Et des gens aussi qui ont besoin de se prouver quelque chose à eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont capables de le faire? Vraiment, il y a toutes sortes de questions qui sont assez intimes. Et il y a une forme de spiritualité qui se vit sur le chemin. C'est-à-dire que les gens vivent vraiment d'amitié, de partage, dans un monde fraternel où tout le monde est égal. Parce que vous n'avez plus d'identité sociale. Vous faites tous la même chose. Vous êtes pèlerins. Vous vivez pour très peu d'argent. Ça coûte très peu cher, les refuges. Ça coûte 3 euros à 5 euros. Et puis, il y a une fraternité, une amitié entre les gens qui se crée entre des gens très différents.